Merci beaucoup. C'est un honneur d'être parmi vous et de pouvoir porter la parole de Dieu. Et c'est aussi toujours en tremblant qu'on le fait, puisque on ne présente pas nos idées personnelles, mais la parole de Dieu elle-même. Et nous sommes toujours faibles pour le faire. C'est une difficulté de commencer. Mais ça a un avantage, c'est que je peux prendre le message à tous les autres. C'est-à-dire, si je leur marche sur les pieds, mais je ne pense pas. Je pense que chaque sujet a été choisi pour aborder un aspect différent. Et puis, de toute façon, c'est bon de répéter les choses pour bien les connaître. La nécessité de l'Église, c'est mon sujet ce soir. Nous assistons depuis une bonne vingtaine d'années à des changements profonds dans l'Église et dans les Églises. Même, on pourrait dire qu'il y a un changement de la définition d'une Église. Il y a par exemple ce mouvement aux États-Unis qui est devenu mondial avec Rick Warren et la Purpose-Driven Church, l'Église avec un but. Qui a modifié la définition d'une église. Il y a de plus en plus de méga-églises. Et les petites églises, comme jadis les petits commerçants disparaissaient devant les mammouths, aujourd'hui les petites églises ont tendance à disparaître, avalées par les mammouths religieux. Il y a eu aussi une perte de confiance dans les églises. Sans m'attarder sur l'histoire de l'Église, notamment l'Église catholique romaine, qui a laissé un mauvais témoignage de ce que peut être l'Église de Christ. Il y a aussi de nos jours des débordements charismatiques, il y a des comportements sectaires, et il y a de plus en plus de chrétiens qui abandonnent l'Église parce qu'ils y ont été meurtris, parce qu'ils ont été choqués, parce qu'ils ont été trompés dans leurs églises. Alors, faut-il continuer à aimer son église, on pourrait dire, changer le titre là. J'aime mon église et dois-je continuer à l'aimer? L'église est-elle nécessaire? Est-ce qu'il faut aussi bien finalement prier tout seul chez soi, comme le disait le maire communiste de Montreuil, en bouleversant, perturbant le culte d'une église évangélique récemment, pour faire des soi-disant contrôles de sécurité. Hein? Est-ce qu'il vaut mieux prier chez soi que d'aller dans une église? Eh bien, comme d'habitude, nous voulons revenir aux Saintes Écritures. Regarder à quoi sert l'église dans le plan de Dieu. Et regarder à quoi sert l'église pour la croissance du chrétien. Juste avant, je voudrais faire une petite définition entre l'Église universelle et l'Église locale. L'Église universelle, c'est l'ensemble des rachetés de Jésus-Christ, morts et vivants. Et l'Église universelle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas visible en elle-même. Elle ne se montre qu'à travers les Églises locales. Et ainsi, même si tout chrétien qui a cru en Jésus-Christ est membre automatiquement de l'Église universelle, pour que cette Église universelle soit manifestée sur la terre, il faut qu'il y ait des églises locales. Et nous tenons à le rappeler, et nous croyons que cela vient aussi de l'Écriture. L'Église est nécessaire dans le plan de Dieu, c'est mon premier point. Elle est nécessaire, elle est indispensable, elle fait partie du plan de Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle est le corps de Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Éphésiens 1, 22 et 23. Pour bien comprendre, je rajoute les mots. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et cette expression est assez étonnante. L'Église est le corps de Christ, hein, on le connaît bien, mais elle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ce verset en vous grattant la tête. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Ce qu'on comprend en lisant, c'est que Christ remplit tous les croyants et que l'Église est la plénitude de Christ. C'est-à-dire que la plénitude de Christ se manifeste à travers l'Église. Ce n'est pas rien comme vérité. Dans le plan de Dieu, l'Église n'est pas seulement un rassemblement de gens, une réunion de chrétiens, un club ou une organisation religieuse. L'Église, c'est la plénitude de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Dieu le Fils est devenu un homme il y a 2000 ans, en la personne de Jésus de Nazareth. Et quand le Seigneur Jésus a fini sa mission sur la terre, quand il a payé pour nos fautes, quand il est ressuscité, il est remonté au ciel dans la gloire, non sans promettre l'envoi d'un autre consolateur. Qui était-il? Le Saint-Esprit. Et ce consolateur, Dieu le Saint-Esprit, a eu une première mission, c'est de baptiser tous les croyants, tous les disciples, en un seul corps, le jour de la Pentecôte. Il les a unis d'une façon unique, indélébile par le lien du Saint-Esprit, au point qu'ils forment un véritable corps. Mais aujourd'hui, Christ n'est donc plus sur la terre. Il est au ciel. Et il se manifeste à travers son corps qui est l'Église. L'Église à travers le Saint-Esprit. On trouve que le livre des Actes est la parfaite continuation des évangiles. D'ailleurs, c'est le même auteur qui a écrit Luc et les Actes. Dans les évangiles, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les œuvres extraordinaires et magnifiques de Jésus-Christ, le Sauveur. Et dans les Actes, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les œuvres extraordinaires et magnifiques de Jésus-Christ à travers son Église. Dans les évangiles, il est dans son corps humain. Dans les Actes, il est dans son corps dit mystique, il est dans l'Église. J'aimerais citer Campbell Morgan, ce grand commentateur des Écritures au XIXe siècle, ça fait longtemps. Il écrit au sujet du livre des Actes, de la même façon que le Christ vivant a vécu et marché parmi les hommes dans un corps humain, comme le racontent les évangiles, il continue de vivre et de marcher parmi les hommes à travers son corps, l'Église. Quand on affirme que l'Église est le corps de Christ, le corps agissant de Christ, on dit deux choses. Premièrement, l'Église n'est pas une invention humaine. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un homme qui a dit, tiens, si on faisait une Église. C'est l'œuvre absolue de Dieu. C'est Dieu qui a bâti, qui a baptisé, qui a formé, qui crée, qui tient l'Église. C'est son œuvre, il est la tête, il est le commencement, la fin. Il est même le but de l'Église. Deuxième chose, l'Église n'est pas une simple organisation, elle est un organisme vivant, elle est le corps de Christ, elle vit. Maintenant, vous allez peut-être avoir une question qui vous vient à l'esprit. Si vous ne l'avez pas, je vais vous la poser quand même. Mais si je suis membre de l'Église corps de Christ, est-ce que je suis obligé de rejoindre une église locale en particulier? Je peux rester chez moi dans ma maison, adorer le Seigneur avec si j'ai une famille, avec ma famille, on va chanter des cantiques. Je suis membre du corps de Christ. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire cela? Eh bien, il est clair dans les Écritures qu'il faut un rassemblement local, que l'église corps de Christ, encore une fois, comme je l'ai dit au début, se manifeste par des églises locales. Et je suis certain qu'Alain Morino développera le sujet de l'engagement dans son église. Et que juste de prier à la maison le dimanche n'est pas le plan de Dieu, mais le plan de Dieu, c'est qu'on s'engage dans son église. Une autre question. Mais moi, j'ai été déçu par les églises. Alors, Je préfère vivre ma foi de mon côté. J'en ai assez des églises. Je n'aime plus les églises. Je n'aime pas mon église. Voilà, votre titre. Je n'aime pas votre titre parce que je n'aime pas l'église. J'ai été déçu. Eh bien, j'espère, je pense et je suis certain presque que David Mumford nous parlera, en nous parlant de l'amour de Christ pour l'Église, vous donnera envie à nouveau d'aimer les Églises. Car les Églises, ce sont les œuvres de Christ. Et si Christ l'aime, alors nous, nous devons l'aimer. Je pense à cette histoire dans le livre des Nombres, lorsque Balak demande au faux prophète, hein, Balaam, de maudire Israël. Et il va pour maudire, et puis au moment où il s'apprête à maudire, il dit: Oh, que tes tentes sont belles! Parce que le Saint-Esprit l'a saisi, et il n'a pu dire qu'une bénédiction. Et je pense que c'est la même chose pour nos églises. Sans l'église, Christ ne se manifesterait pas. C'est ça que ça veut dire. L'Église est corps de Christ. Sans l'Église, Christ ne se manifesterait pas. Il a choisi de se manifester à travers son corps, à travers les Églises. Et Dieu compte sur ses enfants pour manifester collectivement le Seigneur Jésus-Christ à travers leur vie. La fonction première de l'Église, c'est de montrer Christ au monde, d'être ce corps. Un corps, il est là pour être montré. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Et lui est la lumière du monde, mais nous aussi. On ne peut pas se défausser sur le Seigneur. Oh Seigneur, brille sur les hommes, éclaire les gens. Nous, on va rester à la maison, mais on va prier pour que les gens soient touchés par l'Évangile. Non. Christ a envoyé son Église dans le monde, au milieu du monde, et pourtant, à l'écart du monde. Le mot église en français vient du grec, hein, ecclésia. Et ecclésia, si on prend l'origine étymologique, ça veut dire appelé hors de. Hors de quoi? Hors du monde, justement. Hors du péché. Hors du diable. Et l'église est appelée hors du monde à être sainte, séparée et en même temps à être dans le monde pour manifester Christ. Malheureusement, il y a des déviations par rapport à cette vérité. Il y a un frère aux États-Unis qui est directeur d'une radio et il a commencé à dévier en annonçant la date du retour de Jésus-Christ. Il a dit, il va revenir en 1994. Il a écrit un livre et c'était quelqu'un de très. Sa radio existe toujours, c'est des chants très anciens, un peu comme on a chanté, très traditionnels, un chrétien biblique qui veut annoncer l'évangile. Et puis, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, malheureusement? Il a fallu qu'il écrive ce livre, alors qu'il y avait déjà un qui s'était trompé en 1988, avec 88 raisons pour croire que Jésus-Christ reviendra en 88, lui, 1994. À ce moment-là, les églises qui connaissaient sa radio et qui parlaient de lui l'ont appelé, ils lui ont dit, écoute, nous croyons que tu as fait une faute là, que tu as fait une fausse prophétie parce que Jésus-Christ n'est pas revenu en 1994. Et il s'est fâché contre toutes les églises de sa région, il est en Californie. Et voilà son nouveau message. Il faut quitter les églises, car la tribulation a commencé, et maintenant les églises vont être jugées par Dieu. Fuyez votre église. Et si votre église est une bonne église, fuyez-la encore plus. Qu'est-ce qui lui a pris, hein? Mais vous savez, il y a des centaines de gens qui ont quitté leurs églises parce qu'ils écoutaient la radio tous les matins et ils ont dit, ah ben c'est ça, il faut le faire, il faut que je quitte mon église. Les églises sont totalement apostates. John Nelson Darby, hein, le grand traducteur de la Bible et étudiant des Écritures, a eu un comportement presque similaire. Il n'appelle plus l'église église, il l'appelle l'assemblée. Si vous lisez les livres de Darby, il n'y a jamais l'Église, il y a l'Assemblée. Pour lui, l'Église était apostate et c'était l'Assemblée qui était la vraie Église. Mais il y a aussi Rick Warren. J'aimerais revenir à lui parce qu'il est très, 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 très influent. Il a même, si j'ai bien entendu, pour ambition d'influencer le monde entier, le monde chrétien tout entier, avec sa pensée. C'est quelqu'un de très fort. Son église compte 50 000 participants, mais 10 000 membres seulement inscrits. Quand même, hein, c'est pas. Il a écrit plusieurs livres qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires, qui étaient des best-sellers, traduits dans toutes les langues, et nous en avons au moins deux en français. Hein, celui sur l'Église, qui a un but, et puis aussi celui sur la vie. Je crois que c'est un message, une vie, une passion, une destinée. Hein? The Purpose-Driven Life, en anglais. Et voilà sa définition de l'Église. Écoutez bien. Dieu a créé l'Église pour répondre à nos cinq plus grands besoins. Un sens à la vie, des personnes avec qui partager, des principes à appliquer, une profession de foi à pratiquer et une puissance pour s'appuyer. Il n'y a pas d'autre endroit au monde que l'Église où l'on puisse trouver ces cinq bienfaits à la fois. Pour lui, l'Église a été créée pour répondre à nos besoins. Est-ce que c'est ça qu'on lit dans les Écritures? L'Église a été créée pour glorifier Jésus-Christ, pour manifester, pour être le corps de Christ. S'il est vrai que c'est dans l'Église que le chrétien grandit, l'Église n'a pas été créée pour répondre à nos besoins. Et là, on change gravement les Écritures, on la tourne de Dieu vers l'homme. Et les églises du modèle de Rick Warren sont des églises centrées sur l'homme. Rick Warren a commencé son immense église en faisant le tour de son quartier, de son même, de sa, presque de sa ville, en frappant aux portes et en disant: pourquoi vous n'allez plus à l'église? Et les gens lui ont dit: parce que ça, ça, ça. Et qu'est-ce que il vous faudrait pour que vous retourniez à l'église? Je voudrais ça, ça, ça. Quand il a fait son petite liste, ça s'appelle du marketing, ça s'appelle de l'étude de marché, hein. Il a fait l'église que les gens voulaient. Et en quelques semaines et en quelques mois, elle s'est remplie. Ce n'est pas la définition biblique de l'église. Et nous devons faire attention à ne pas changer, hein, le point de vue de l'église. L'église a été faite pour porter Christ aux nations. Nous voyons dans les Écritures que les âmes sauvées étaient ajoutées à l'église de Christ. Une vraie église est une église où Christ est la tête, où les membres sont véritablement membres du corps de Christ et non pas seulement incorporés par leur baptême étant bébés. Car il faut faire quand même une différence entre une vraie église et une fausse église. La vraie église, elle est constituée de chrétiens qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ, qui ont été baptisés selon les Écritures. Et donc Christ est la tête et les Écritures l'autorité suprême. Mais une église où on est là parce qu'on a été baptisé bébé n'est pas forcément une vraie église. Là encore, il y a eu un changement dans la définition avec Billy Graham qui a complètement changé aussi la pensée des chrétiens dans le monde entier. Voilà sa citation en 1997 dans une interview avec Robert Schuller. Je pense que chaque personne qui aime Christ, qu'elle en soit consciente ou non, est un membre du corps de Christ. Aujourd'hui, Dieu appelle un peuple hors du monde pour son nom, qu'il vienne du monde musulman, ou bouddhiste, ou chrétien, ou athée. Ils sont membres du corps de Christ parce qu'ils sont appelés par Dieu. Ils ne connaissent peut-être pas le nom de Jésus, mais ils savent dans leur cœur qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils se tournent vers la seule lumière qu'ils aient. Et je pense qu'ils sont sauvés et qu'ils iront avec nous au ciel. Donc, son message, c'est que si vous êtes musulman parce que vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, mais que dans votre cœur, vous savez qu'il vous manque quelque chose et que vous le trouvez dans le Coran et dans Allah, vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes sauvés. Je pense que c'est dangereux comme message par rapport aux Écritures. Et surtout, on peut dire, mais alors pourquoi prêcher l'évangile, hein, puisque de toute façon, qu'on entende parler de Jésus ou pas, on est sauvé. Si on est sincère dans son cœur, ce n'est pas la peine de porter la bonne nouvelle même au monde entier. L'Église n'est pas seulement le corps de Christ, elle est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15, cité par notre frère tout à l'heure. 1 Timothée 3,15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et le rôle de l'Église, c'est de soutenir et proclamer la vérité de Christ et de la parole de Dieu. La colonne, on ne pense pas toujours à ça en lisant ce passage, mais dans le monde grec, il y avait des colonnes qu'on a encore aujourd'hui à Paris, qu'on appelle les colonnes Maurice, sur lesquelles on affichait les nouvelles. Et on placardait là toutes sortes de choses sur les nouvelles. Et l'Église, en quelque sorte, c'est cette colonne qui affiche Christ et la bonne nouvelle. Mais aussi, il est peut-être fait allusion là au temple de Diane, car Timothée était pasteur à Éphèse. Et Éphèse, vous savez, c'est là où il y avait Diane, grande est la Diane des Éphésiens. Et son temple trônait au milieu de la ville, et il avait des colonnes et des colonnes et des colonnes à n'en plus finir. Et Paul est en train de dire là, la vraie colonne, la colonne de vérité, c'est l'Église, ce n'est pas le temple de Diane. Paul explique ici à Timothée que les leaders, parce que ça suit tout ce passage sur les évêques et les diacres, que les leaders doivent être particulièrement irréprochables dans leur conduite et qualifiés moralement. Et certainement, Olivier en parlera dans le gouvernement de l'Église. Parce que l'Église dont ils ont la charge rend témoignage à la vérité. Il dit, alors tu dois savoir comment il faut se conduire dans la colonne et l'appui de la vérité. Comment l'Église est-elle l'appui de la vérité? Eh bien, lorsqu'elle donne un enseignement méthodique dans la Bible. Ce n'est pas juste des bonnes phrases, des bonnes paroles, des bonnes histoires. Il y a de plus en plus de prédicateurs, ils vous racontent une blague, un verset, deux blagues, un verset, trois blagues, un verset. Ce n'est pas comme ça qu'il y a un enseignement biblique. La Bible doit être non seulement prêchée, mais expliquée, enseignée, car c'est elle qui est notre nourriture, notre force. C'est elle qui est la vérité. Deuxièmement, l'Église est la vérité lorsqu'elle baptise les disciples qui font l'engagement de suivre Jésus-Christ. Si elle baptise des gens qui n'ont fait aucun engagement devant Dieu, qui ne sont pas des disciples, elle perpétue des faux chrétiens et elle devient une fausse Église. Elle est l'appui de la vérité en proclamant l'Évangile de Jésus-Christ au dehors. Elle est l'appui de la vérité en établissant une discipline morale et spirituelle. S'il n'y a pas de discipline dans l'Église, s'il n'y a pas des garde-fous, s'il n'y a pas un enseignement qui dit « attention, ça c'est pas bon », s'il n'y a pas un moyen de dire « non, nous n'acceptons pas cette doctrine dans l'Église, nous n'acceptons pas ce comportement dans l'Église, nous n'acceptons pas cette tenue dans l'Église », ça devient la foire. Ça n'est plus la colonne et l'appui de la vérité. Mais maintenant, la question qui nous vient, c'est « alors, vous pensez que l'Église, les Églises sont infaillibles? Que toutes les Églises sont la colonne et l'appui de la vérité ?» Non, malheureusement. Il n'y a que la parole de Dieu qui est infaillible. Les Églises ne sont pas infaillibles parce qu'elles sont faites d'hommes faillibles. Et même s'ils sont unis par le Saint-Esprit, ils ne sont pas infaillibles. Les églises peuvent dévier, déjà quand la tête dévie, quand les leaders dévient, c'est pour ça que Paul a écrit à Timothée, mais aussi si c'est une église d'État par exemple, il suffit que les gouvernants de cette église dévient et toutes les églises d'État dévient en même temps. C'est ce qui est arrivé à l'église catholique romaine, c'est ce qui est arrivé à l'église protestante. Également les dénominations. Vous savez, lorsque nous sommes sous une dénomination qui dirige tout le monde, nous, dans l'Alliance Baptiste de France, l'Alliance Baptiste de France n'est pas une dénomination, c'est une alliance, une communion d'églises. Et les églises qui sont dedans sont des églises indépendantes. Mais dans une dénomination, vous avez quelqu'un en haut qui vous dit, voilà la confession de foi de notre dénomination, voilà les principes de notre dénomination, et vous devez tous, toutes les églises sont sur le même moule, exactement. Et lorsque la dénomination vire, toutes les églises virent. C'est ce qui est arrivé dans beaucoup de dénominations, même baptistes aux États-Unis. Ils ont commencé à changer un point de la confession de foi, et le point, c'était l'autorité et l'inspiration plénière des Écritures. Ils ont changé ça. Ils ont dit, l'inspiration plénière, il y a quand même peut-être deux ou trois erreurs dans la Bible. On peut pas, tout n'est pas inspiré quand même. Bon, il y a des, c'est vrai que la Bible contient un message, mais il y a souvent des symboles. Et puis, quand même, quand ils ont écrit l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils ont peut-être fait des petites erreurs là. Ils ne connaissaient pas la théorie de l'évolution, par exemple. Et ils ont commencé à changer leur confession de foi, et en quelques années, ils sont partis dans le mouvement du libéralisme, du modernisme. Ils ont fini par ne plus croire au miracle, ne plus croire même à la résurrection de Jésus-Christ, et à accepter tout et n'importe quoi. C'est pour ça que nous croyons dans l'Alliance Baptiste que les églises indépendantes qui pratiquent la séparation avec les fausses doctrines et avec l'œcuménisme notamment, sont des églises qui peuvent plus facilement garder la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il y en a une qui s'égare, l'autre, elle peut dire, ben nous, on ne va pas te suivre, nous, on veut suivre la parole de Dieu. On ne va pas tous en même temps s'égarer. C'est pour ça que l'église locale est essentielle par rapport aux organisations. Il y a beaucoup d'organisations chrétiennes, il y en a de plus en plus. Et c'est, il y a vraiment des bonnes choses dans les organisations. Ceux qui s'occupent des étudiants, ceux qui s'occupent des chrétiens persécutés, ceux qui s'occupent des célibataires, ceux qui s'occupent des... Bon. Vous connaissez certainement mieux que moi les organisations chrétiennes. Mais le problème, c'est si elles remplacent les églises, là, il y a un problème. Parce que les organisations ne sont pas la colonne et l'appui de la vérité. Les organisations prennent des chrétiens de partout, en général les meilleurs, les plus engagés. Elles vident les églises. Et elles font travailler ces gens pour des choses, des projets souvent formidables. Mais elles mélangent toutes les doctrines là. Une fois, nous avons rencontré des Gédéons à Paris qui font un travail de distribution des saintes écritures dans le monde entier, qui ont contribué au salut de beaucoup d'âmes. Et ces Gédéons, c'était des jeunes hommes d'une trentaine d'années. On a dit, on a fait connaissance, ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur. Oui, j'étais enfant, mes parents étaient chrétiens. Et puis à un moment, on dit, vous avez été baptisé où? On n'a pas été baptisé. Et donc, ces chrétiens, qui étaient quand même des disciples d'une certaine façon, n'avaient jamais été baptisés selon les Écritures. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'allaient pratiquement jamais dans une église, ou jamais dans la même surtout. Ils étaient tous les dimanches dans une autre église. Ils n'avaient pas d'engagement quelque part dans une église. Et ils n'avaient pas été baptisés. Ils n'avaient pas reçu un enseignement méthodique dans une église. Et ils avaient plein d'idées qu'ils avaient prises à droite et à gauche. C'est pour ça que Dieu a instauré les églises locales pour être la colonne et l'appui de la vérité. Je voudrais terminer ce soir avec mon deuxième point. Mon premier point. C'était l'Église est nécessaire dans le plan de Dieu. Et nous avons vu parce qu'elle est le corps de Christ et aussi parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Mon deuxième point, c'est que l'Église est nécessaire pour la croissance du chrétien. Vous remarquerez en lisant encore une fois le Nouveau Testament que c'est adressé à des églises locales. Épître aux Colossiens, à l'Église qui est à Philippe ou à l'Église qui est à Éphèse. Que Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, lorsqu'il parle aux églises, il marche au milieu des églises locales. Il ne parle pas à l'église universelle, il parle à cette église locale. Bien sûr, à travers elle, nous pouvons tous voir nos églises, mais l'église locale est encore au centre du plan de Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'on se rassemble? Hébreux 10, 25, s'il vous plaît. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? le jour de Christ, le jour où Christ reviendra chercher son Église. Littéralement, ce verset dit, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Ce n'est pas du bon français, c'est littéral. Hein? Mais ne désertons pas même le rassemblement de nous-mêmes. Dieu veut que les chrétiens se rassemblent sous la forme d'une église et qu'ils s'exhortent. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église locale que les dons spirituels s'exercent. 1 Pierre 4,10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Des autres, c'est qui? Mon voisin de palier? Non, c'est les autres chrétiens dans mon église. C'est dans l'église locale que l'enseignement biblique peut être transmis fidèlement de génération en génération. 2 Timothée 2,2, ce que tu as reçu et entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui l'enseigneront aussi à d'autres. Dans une église, il y a un pasteur qui donne un enseignement et les chrétiens grandissent dans cet enseignement qui normalement, surtout, doit être conforme aux Écritures. Et ils sont baignés dans la Bible et la génération suivante, elle reçoit cet enseignement par les anciens et tout ça se transmet et ça peut être préservé. Et si ce n'est pas préservé, le Seigneur peut envoyer un réveil. C'est dans l'église locale que l'amour se pratique. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais avoir de l'amour pour qui? Mais pour mes frères et sœurs. C'est là que les gens verront que nous sommes disciples de Christ. Si je vais à l'église sans jamais dire bonjour aux autres, si je vais à l'église en regardant en chien de faïence mon voisin, les gens vont dire, c'est pas des disciples de Christ, ça. Qu'est-ce qui frappe les visiteurs des églises lorsqu'ils entrent? C'est la chaleur fraternelle. C'est cet esprit de Dieu-là, d'amour, qui règne. Et ils disent, mais comment? Ils sont tous frères et sœurs, vraiment, quoi. Il y a vraiment, ça veut dire quelque chose, frères et sœurs. Quand ils voient qu'après le culte, il y a une deuxième réunion, hein, on est là à discuter pendant pratiquement le même temps, parce qu'on a plein de choses à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je vais à l'église catholique, on s'assoit sur le banc, on regarde l'autre à côté. Quelle robe elle a mise, quel chapeau elle porte aujourd'hui, et puis je m'en vais tout de suite après. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'amour du Seigneur et c'est comme ça qu'on connaîtra que nous sommes disciples. C'est dans l'église locale que se trouve la consolation. 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous les uns les autres. Qui va me consoler quand je suis abattu? Qui va me donner une prière? Qui va prier pour moi quand je chute, quand je suis découragé, si ce n'est pas mes frères et sœurs? C'est dans l'église locale que se trouve la correction. Galates 6,1. Frères, si quelqu'un vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Beaucoup de gens finissent par ne plus aller à l'église parce qu'ils n'aiment pas être corrigés. C'est vrai, quand vous êtes tout seul chez vous, vous avez votre culte, vous êtes bien. Personne n'est là pour vous dire, mais dis donc, c'est pas tout à fait correct ce que tu fais là, ou ce que tu en crois, ou ce que tu enseignes. Vous êtes tranquille, puisque personne n'est là pour vous contredire. Et j'avais sans doute raconté l'histoire de ce Quaker, hein, qui ne supportait plus les autres, et donc il avait une petite église de maison, et puis il a dit aux gens, l'un après l'autre, va-t'en, donc tu ne peux pas adorer avec nous, tu n'es pas comme nous, tu ne crois pas pareil. Et puis, il s'est retrouvé tout seul avec sa femme. Alors, un jour, il croise quelqu'un du village, il dit, alors, il paraît que ça y est, maintenant, tu es tout seul avec ta femme dans ton église. Et avec ta femme, ça se passe bien. Il dit, quelquefois même, j'ai des doutes sur ma femme. L'église, c'est le lieu où on apprend à vivre avec les autres, à prier ensemble, à bâtir ensemble. Et à se corriger. Parce que les autres nous montrent, sont des modèles des fois pour nous. On dit, oh, moi j'en suis pas là, oh là là. Et ça nous donne envie d'avancer. C'est dans l'église locale, oui, que nous pouvons porter nos fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2, ce sera mon dernier verset ce soir. Prenez-le avec moi, s'il vous plaît. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je crois, là c'est mon interprétation maintenant de ce verset, je crois que Dieu nous donne des fardeaux dans la vie trop lourds pour que nous puissions les porter tout seuls. Je crois que Dieu le fait exprès. Vous me dites, ah, il est dur. Non, il nous donne des fardeaux trop lourds pour que nous soyons obligés de les porter à plusieurs. C'est pour ça que je crois que l'Église est non seulement nécessaire, mais indispensable. C'est que si je suis tout seul avec mes fardeaux, je n'arriverai pas à les porter. C'est trop dur. La vie d'un chrétien est trop dure tout seul. Il y a trop d'attaques, de tentations, de problèmes. C'est trop dur. On a besoin des frères et sœurs pour nous aider à porter nos fardeaux. C'est comme si Dieu nous donnait une valise qui fait 200 kilos. Il dit, voilà, tu vas te trimballer toute ta vie avec cette valise. Seigneur, 200 kilos, je ne suis pas haltérophile, moi, si tu me demandes ça. Mais comment je vais faire? Oui, mais regarde, il y a combien de poignées sur ma valise? Ah, effectivement, il y en a une dizaine. Alors peut-être que je vais pouvoir trouver de l'aide, là. Et alors, il faut chercher de l'aide. Venez m'aider, j'ai ma valise, là. Et les autres viennent. Et les autres, ils ont aussi une valise qui fait 200 kilos. Et tu peux me donner une main en même temps? Ah oui, bah d'accord. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. Qu'on se soutienne les uns des autres. Sans vous, je ne suis rien. C'est comme ça que nous sommes un corps. Sans la tête, la main n'est rien. Et sans la main, la tête, ben, elle n'est rien non plus, parce que qui va la faire manger? Qui va lui la gratter quand ça la démange? Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est même le plan de Dieu. Ce n'est pas une option. C'est la volonté de Dieu qu'on soit ensemble pour glorifier son nom. La loi de Christ, c'est que j'aide mes frères à porter leur fardeau et qu'ils m'aident à porter les miens. Est-ce que vous êtes né de nouveau et est-ce que vous êtes vraiment membre du corps de Christ? Peut-être que parmi nous, ce soir, il y a quelqu'un, vous pensez avoir toujours été chrétien depuis votre naissance, mais vous n'avez jamais pris une décision. Vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés devant Dieu. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Vous n'avez jamais eu une transformation dans votre vie. Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans le corps de Christ. Pour être dans le corps de Christ, il faut avoir reçu le Saint-Esprit par la foi. Peut-être que vous êtes déjà sauvé, déjà né de nouveau, mais vous n'êtes pas dans une église pour diverses raisons. Alors il est temps de rejoindre une église la plus fidèle possible aux Écritures et d'aimer cette église malgré ses imperfections, car aucune église n'est parfaite. Mais vous me dites, moi je n'ai pas d'église dans ma ville ou dans ma région. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous encourage à commencer une réunion le dimanche chez vous et de prier que Dieu envoie un serviteur, un missionnaire, pour commencer une église. Et ce sera peut-être vous d'ailleurs, hein, le missionnaire. Mais il faut commencer une église, car Dieu travaille à travers l'église, ce qui est son corps. Merci de votre attention.